n'était pas parmi nous ce matin, je dirais seulement brièvement que ce matin, nous avons parlé de pauvres et ce soir, on va parler de riches. On a parlé de pauvres, on a parlé du Seigneur Jésus qui s'est volontairement fait pauvre pour nous. On a lu dans le psaume 41, « Bienheureux celui qui comprend le pauvre ». Et on a vu que le pauvre, par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Comme il a dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, pour vous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et on a lu bien des passages qui nous parlent de lui. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel se fait pauvre et a de grands biens, le Seigneur Jésus lui-même. Et j'ai dit que ce soir, on parlerait de nos richesses dans la personne du Seigneur Jésus. Et je pense qu'on ne pourrait pas faire mieux à ce sujet que de lire dans l'Épître aux Éphésiens, où nous trouvons 6 fois le mot « richesse ». Épître de Paul aux Éphésiens, s'il vous plaît. Verset 1er du 1er chapitre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Voilà une richesse. Que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse, encore une fois, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Épître aux Éphésiens, elle pénètre jusqu'au fond des racines de notre être. Parce qu'elle dit, au deuxième chapitre, verset bien connu, que nous sommes tous par nature des enfants de colère. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on pêche, mais c'est notre nature de pécher. De même qu'un pommier ne devient pas pommier le jour où il produit sa première pomme, mais il produit des pommes parce qu'il est pommier, bien, on sait qu'un enfant, aussi gentil qu'il pourrait être, est un pécheur et ne peut produire que de mauvais fruits. Nous sommes par nature des enfants de colère, c'est-à-dire soumis à la colère de Dieu, au juste châtiment de Dieu. Elle nous conduit, non, elle nous, comme j'ai dit, elle part depuis la racine de notre être en disant ce que nous sommes dans notre nature même, et nous conduit jusqu'au plus haut sommet de la révélation divine, en nous faisant voir le chrétien dans les plus hauts aspects de ses bénédictions célestes. Célestes. En contraste avec Israël, qui était béni sur la terre, d'une façon terrestre. Les bénédictions du Seigneur sont spirituelles et célestes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous bénit pas. On le remercie avant de manger pour la nourriture, on le remercie de nous protéger d'accidents, et on lui remercie pour une maison confortable, surtout quand il fait froid, on le remercie pour beaucoup de ses bienfaits matériels, terrestres, temporaires, passagers, mais nos bénédictions, elles sont avant tout spirituelles et célestes. Et on l'a lu, l'apôtre Paul dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Quand on sent notre misère comme pécheur, quand on voit notre culpabilité et qu'on se rend compte de ce qu'on mérite, on se très content de ne pas aller en enfer. Mais le salut, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui devrait, comme nos frères ont prié, réjouir nos cœurs ce soir, en pensant à nos bénédictions. Que Dieu nous a ouvert les trésors du ciel. Que toutes les bénédictions, toute la gloire qui appartient à son Fils, elle est à nous, parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritier de Christ, héritier avec lui de la gloire à venir. Quand on lit ce premier chapitre, qui vous est sans doute familier, on voit qu'il y a une abondance d'expressions et de révélations telles que c'est difficile de les lire en un seul souffle. Même les phrases en français, bien que ça n'a pas été écrit en français, mais même dans notre langue, les phrases sont tellement longues. L'apôtre Paul est comme dans un débordement d'expressions et une surabondance de termes pour nous décrire quels sont nos privilèges et nos bénédictions. Dans le deuxième chapitre, il nous montre où la grâce nous a trouvés. On connaît bien ce deuxième chapitre, hein, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant le train de ce monde ». Le chef de la puissance de l'air, etc. Alors, où la grâce nous a trouvés, puis maintenant, où la grâce nous a placés, assis dans les lieux célestes en Christ. Souvent, en faisant des visites d'évangélisation, quand des gens me disent « Mais êtes-vous vraiment sûr d'être sauvé? Je suis sûr que j'étais déjà rendu. » C'est sûr, ça? Plus que ça, Dieu nous voit, comme croyants, déjà assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. On est déjà là, dans la pensée de Dieu. Parce que quand on pense à Dieu, on sait que pour Dieu, il n'y a pas de futur ou de passé. Tout est présent pour lui. Il nous voit déjà là. Tellement, c'est une réalité. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots, d'abord, pour introduire cet épître sur la ville d'Éphèse. Les Éphésiens, les gens d'Éphèse, étaient accoutumés à quelque chose de grandiose. Vous vous rappelez, dans les Actes, hein, grande la Diane des Éphésiens. C'était réputé, le temple de Diane était réputé comme une des merveilles du monde, quelque chose de grandiose. Il ne faut pas penser, quand on pense à l'Antiquité, c'était rien que des cruches qui ne savaient rien faire. Il y avait des très beaux monuments qui étaient plus beaux à voir pour l'œil que nos boîtes à savon d'aujourd'hui, nos gratte-ciels. Il y avait des choses qui étaient très belles, très, très artistiques, grandioses, magnifiques. Et on s'incline, même on dit que certaines pyramides d'Égypte, certaines choses, on ne pourrait même pas les refaire aujourd'hui avec les moyens qu'on a, les grues et les moyens qu'on a aujourd'hui. Tellement, même dans l'Antiquité, on a fait des choses extraordinaires. Alors, ils étaient habitués à des choses grandioses. Et l'apôtre Paul veut leur montrer quelque chose d'encore plus grand, une position encore plus merveilleuse. Là, il y a une chose qui me frappe quand je pense à cela, c'est combien l'apôtre Paul a travaillé dans ces régions d'Asie mineure. Parce qu'Éphèse, c'était une capitale de la province romaine d'Asie, entre Milet au sud et Smyrne qui était au nord. Et c'est frappant de penser que ces régions, ça correspond à la Turquie aujourd'hui. Et d'après certains rapports qu'on entend, on dit qu'en Turquie, il y a peut-être une cinquantaine de chrétiens. Imaginez-vous ça. L'apôtre Paul qui a tellement travaillé dans ces régions d'Asie mineure, qui a eu tellement d'assemblées, de croyants, et puis aujourd'hui, ça a été un raz-de-marée avec les musulmans et avec toutes sortes d'autres erreurs. Si bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. C'est des pays où, dans les plus difficiles pour annoncer l'Évangile. Alors, quel changement? Quand on veut, c'est intéressant cela, parce que quand on lit un peu ces choses, quand on se renseigne un peu, ça rend les choses plus vivantes pour nous. Moi, j'ai déjà été même dans des agences de voyage, prendre des dépliants touristiques pour voir un peu, des fois, les choses sur différentes localités. En l'an 29, Éphèse a été détruit partiellement par un tremblement de terre. Ça a été en partie détruit, cette ville-là. C'est intéressant aussi de voir, quand on veut lire un livre comme ça, un épître, de voir un peu ce que la Bible a à nous dire ailleurs concernant le même livre. Alors, c'est intéressant de lire la visite de l'apôtre Paul à Éphèse, dans les Actes. C'est intéressant de voir dans le chapitre un peu plus loin, dans les Actes, au chapitre 20e, quand il a fait les adieux aux anciens de l'assemblée d'Éphèse, qu'est-ce qu'il leur a dit. Puis c'est intéressant de voir plus tard ce qui est arrivé, la lettre que le Seigneur Jésus glorifié a fait écrire par l'apôtre Jean à l'église d'Éphèse, dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. Alors, il faudrait lire tout ça pour être vraiment un peu dans le bain, pour vraiment voir tout l'ensemble, on voit tout ce qui s'est passé dans cette ville-là. C'est intéressant. On peut dire que cette lettre de Paul aux Éphésiens, elle nous parle de nos bénédictions célestes, comme je viens de le dire, mais Dieu est aussi terre à terre, Dieu est pratique, la parole de Dieu est pratique, Dieu veut qu'on soit réjouis, qu'on soit encouragé, qu'on soit fortifié par la perspective de notre vie, effectivement, dans ces bénédictions. Mais dans les trois, il y a six chapitres. Dans les trois premiers, c'est nos bénédictions célestes. Puis dans les trois derniers, c'est notre marche terrestre. Parce que quand on connaît ces choses, on ne peut pas marcher. Ce c'est-à-dire se conduire comme tout le monde. Un chrétien, c'est pas monsieur tout le monde, il est différent. Il a une dignité d'être chrétien, une grande dignité. Il ne peut pas se comporter comme n'importe qui. Quand on pense au nom de Christ qui est invoqué sur nous, eh bien, ça nous rend sérieux et consciencieux dans notre marche. Et dans la parole de Dieu, on voit que toutes les exhortations ont pour base ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes justes, justifiés, on doit marcher d'une manière juste. On est sanctifié, saint, on doit marcher d'une manière sainte. On est béni de toutes les bénédictions célestes, bien, on doit se comporter sur la terre comme un citoyen du ciel. Citoyen du ciel. On ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui est terrestre. Vous avez peut-être remarqué la différence entre l'Apocalypse et le livre des psaumes. Dans l'Apocalypse, dans le livre des psaumes, devrais-je dire d'abord, les habitants de la terre, c'est les fidèles. Parce que dans les psaumes, les habitants de la terre, c'est ceux qui vont régner avec Christ sur la terre. Le reste fidèle, juif en particulier. Tandis que dans l'Apocalypse, les habitants de la terre, c'est ceux qui vont rester sur la terre pour le jugement. En contraste avec les croyants qui sont citoyens du ciel. Comme le dit bien l'apôtre Paul aux Philippiens, hein? Mais nous, notre citoyenneté, notre bourgeoisie est dans les cieux. Nous, nous attendons aussi le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre abaissement, notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ça, c'est à la résurrection. Alors, on est citoyen du ciel. Et c'est ce qu'on voit dans cet épître, que nous sommes bénis de tous les trésors, de toutes les bénédictions du ciel. Et Dieu nous les révèle, précisément, pour nous réjouir, pour réjouir nos cœurs, pour nous encourager. Donc, nos bénédictions célestes, notre marche terrestre, et aussi notre combat. Parce que c'est dans le chapitre 6 que nous lisons qu'il faut prendre toutes les armes de Dieu, pour pouvoir tenir ferme, combattre. Dernièrement, je me disais, mais... parce que la vie chrétienne, évidemment, on devrait dire, est une course, une marche et un combat. Ça, c'est trois choses que la vie chrétienne est, qu'on doit avoir clair dans notre esprit. Une course, on n'a jamais vu quelqu'un faire une course de vitesse, puis dire, est-ce que ce serait permis que je prendrais un sac de sable sur le dos? On pourrait lui dire, ben, tu peux bien le prendre, mais t'es sûr d'arriver le dernier? On n'a jamais vu personne marcher, puis dire, je veux marcher en ville, sur les trottoirs glacés, mais je ne veux pas regarder où je marche. Il peut être sûr de se ramasser chez le chiro pour se faire redresser la colonne. Ou on n'a jamais vu personne vouloir combattre, puis dire, je veux être en costume de bain pour combattre. Bien au contraire, on veut s'équiper, s'habiller, c'est pour ça qu'il nous dit de prendre l'armure complète de Dieu. Alors, on voit la logique de la parole de Dieu. Si on veut courir comme il faut, si on veut marcher comme il faut, si on veut combattre comme il faut, bien, il faut agir en conséquence. Alors, la parole de Dieu nous donne des exhortations qu'on en trouve dans cet épître, mais elles sont basées sur ce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu nous fait voir, bien, de ce que nous sommes, eh bien, la parole de Dieu nous montre donc nos bénédictions, ce que nous sommes, et maintenant, ce que nous devons être, d'une façon pratique. C'est vrai que dans cet épître, on voit, vous étiez, vous êtes, soyez. Lisez l'épître aux Éphésiens, puis remarquez ces temps du verbe être. Vous étiez morts dans vos péchés. Vous étiez, nous étions tous de leur nombre rebelles. Nous étions, tout ce que nous étions, vous étiez. Quand il dit nous, il inclut les juifs et les non-juifs. Quand il dit vous, il veut dire les païens. C'était des païens, les ex-païens, ils étaient devenus chrétiens. Et puis, nous sommes, c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous sommes actuellement, et puis soyez, c'est ce que nous devons être, c'est l'impératif pour dire ce que devrait être pratiquement notre conduite. Dans l'Épître aux Éphésiens, et on va voir un peu de nos bénédictions, mais avant j'aimerais juste remarquer, pendant que j'y pense, à propos de la marche. Regardez comment on peut suivre un thème dans une épître comme ça. Regardez au chapitre 2, au verset 2, au verset 1, disons pour le contexte. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Hein? Des morts qui marchent dans le péché, dans le mal, qu'on connaît bien, c'est bien connu ce chapitre 2. Des morts qui marchent dans le péché. Marcher comment? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair. On a les trois ennemis là. Hein? Le prince de la puissance de l'air, prince ça veut dire chef dans la Bible. Et puis, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, donc Satan. Ensuite, il dit, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère. Sont le train de ce monde. Le monde, Satan, la chair. Nos ennemis. Mais autrefois, on était entièrement subjugués, ça veut dire dominés, par ces trois ennemis, qui sont encore nos ennemis, mais on n'est plus asservi à leur pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de pêcher. C'est la différence. Eh bien, on marchait dans ce chemin-là. Ça, c'est le chemin où tout individu, de quelque arrière-plan qu'il soit, était. On marchait dans ce chemin-là. Mais on ne doit plus marcher là. Parce que regardez au chapitre 4, au verset 17, « Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent comme un, selon la vanité de leurs pensées, toutes sortes d'idées qu'ils ont. La marche, c'est ce qu'on appelle un hébraïsme, c'est-à-dire c'est une manière de s'exprimer comme un hébreu. Le Nouveau Testament, ça a été écrit en grec, mais c'est un hébraïsme, ça veut dire que même dans l'original, c'est une manière de parler des hébreux. Ça veut dire la conduite, autrement dit. Comment est-ce qu'on se conduisait avant d'être chrétien? Et vous, on ne doit plus marcher comme ça. Il doit y avoir un changement radical. Maintenant, comment est-ce qu'on doit marcher? Ben, regardez aussi au verset 8 à 10, on va lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans la version d'Arbi, qui est littérale, je ne sais pas si quelqu'un en a une ici, c'est marqué « les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles ». Ça veut dire que Dieu prépare pour les croyants des bonnes œuvres, puis tout ce qu'on a à faire, c'est de marcher dedans. Un peu comme quand on marche dans la neige fraîchement tombée, derrière quelqu'un qui nous précède. La personne, on voit ses empreintes, et puis, quand on ne veut pas avoir de la neige dans nos bottes, ben on embarque dans les mêmes traces. Alors, c'est la même chose. Dieu prépare des bonnes œuvres, et puis on embarque simplement dedans. Ça, c'est ce que ça veut dire. Là. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Et puis, comment est-ce qu'on doit marcher? Là, il en parle encore plus loin. J'appelle au chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc, verset 1. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. Vocation, ça vient du latin vocare, qui veut dire appeler. Et dans certaines versions, ils mettent digne de l'appel. Il en a parlé au premier chapitre. Dieu nous a appelés. Dans un sens, tout individu est appelé. Dieu appelle tous les hommes à venir à lui. Hommes et femmes, enfants, n'importe qui, toute race et toute couleur. Mais ceux qui ont répondu à l'appel sont les appelés, dans le langage de la Bible. Donc, nous sommes des appelés. Parce qu'on a répondu, quand on est sauvé, on a répondu à l'appel. On a dit oui. On a répondu à l'appel. On a pris la main tendue du Sauveur. On l'a accepté. Donc, on ne doit plus marcher comme avant. On doit marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés. Tout à l'heure, je vous ai dit, et j'aimerais le préciser, que les exhortations sont toujours en rapport, dans chaque épître, avec le contexte immédiat. Voyez-vous, par exemple, dans les Éphésiens, il parle de l'Évangile. Les Éphésiens étaient zélés pour l'Évangile. Et il dit, marchez d'une manière digne de l'Évangile. Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul parle du Seigneur Jésus-Christ en contraste avec toutes sortes de personnes, d'anges qui étaient vénérés par les Colossiens, toutes sortes d'erreurs sur la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il présente le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Qu'est-ce qu'il dit? Marcher d'une manière digne du Seigneur. Et puis aux Thessaloniciens, qui étaient autrefois des idolâtres, qui s'étaient tournés des idoles, convertis pour se tourner vers le Dieu vivant, bien, il dit marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa propre gloire. Et puis dans les Éphésiens, où est-ce qu'il parle de l'appel? Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il dit marcher d'une manière digne de l'appel. Et c'est un peu cet appel dont on aimerait parler ce soir. Cet appel merveilleux qui est le nôtre quand on a répondu au Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, chacun des apôtres a un ministère particulier. Dieu, il aime la diversité. Nous, on aimerait que tout le monde soit pareil, mais on ne peut pas être tous pareils. Dieu, il aime la diversité dans quoi? Dans l'harmonie. La variété, la diversité, mais dans l'unité. Chacun des apôtres a un ministère, une ligne particulière. L'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il nous parle de la nature de Dieu. Il nous dit ce que Dieu est, puis il nous dit quelle est la vie que nous avons en lui. Dieu est quoi? Lumière et amour. Et il nous décrit la vie que nous avons en lui. Il nous parle de la nature de Dieu et de la vie que nous avons en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, lui, il nous parle de ce qu'on appelle du gouvernement de Dieu. Dans la première épître, le gouvernement de Dieu, la manière que Dieu va agir envers les siens. Dans la deuxième épître de Pierre, le gouvernement de Dieu envers le monde. Comment il va punir le monde. Et il relie les promesses de l'Ancien Testament avec les nouvelles. Tandis que l'apôtre Paul, qui a écrit ses épîtres, il nous parle de quoi, lui? Il nous parle surtout des conseils de Dieu. Les conseils de Dieu. Ce que Dieu a délibéré de toute éternité dans la Trinité. Mais on voit dans la Bible en particulier que c'est Dieu le Père qui forme les conseils. C'est le Fils qui les exécute par la puissance du Saint-Esprit. Alors on voit qu'en notre faveur, il y a la Trinité, ça veut dire Dieu dans toute la plénitude de son être, qui travaille pour nous. Dieu a formé des desseins éternels. Et c'est ce qu'on voit dans ce premier chapitre, voyez-vous. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu avait des plans pour ceux qui accepteraient son Fils. Il y a du monde qui nous dit, oui, mais Dieu est d'amour, mais comment ça se fait? Il a créé l'homme et la femme, puis il savait d'avance ce qu'ils allaient faire. Mais ça se fait qu'il a permis ça. Puis les gens sont comme choqués, vexés, ils disent, mais Dieu, ça se fait, tu fais ça, comme si on pouvait même questionner. Mais moi, je réponds ceci. C'est pas permis de regarder la chute de nos premiers parents, ce que certains appellent le péché originel, sans penser aussi, du même coup, avant même qu'Adam et Ève pêchent, Dieu, qui est jamais pris par surprise, Dieu jamais pris à l'improviste, par surprise, il savait d'avance, il avait prévu dans son amour un moyen de salut et de grâce, de pardon, pour faire de pécheurs rebelles, révoltés, des trophées de sa gloire pour l'éternité dans le ciel. La chute, Dieu l'a permis, c'est pas à nous de discuter, c'est pas à nous de vouloir dire des pourquoi. De toute façon, je dirais ce que j'ai déjà dit, aujourd'hui on vit dans le pays des pourquoi, mais on s'en va au pays des parce que. Il y a des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais un jour on va le savoir. Donc, le Seigneur Jésus, Dieu l'a permis que l'homme pêche, mais Dieu n'était pas pris par surprise. De toute éternité, le Seigneur Jésus était, comme l'apôtre Pierre le dit, l'agneau préconnu et prédestiné dès avant la fondation du monde et manifesté au temps propre. Dieu avait un moyen pour pardonner le pécheur, et ceux qui étaient pardonnés, qui accepteraient son Fils, il voulait les bénir de toutes les bénédictions du ciel. Ça veut dire les associer à la gloire de son Fils. Comme j'ai dit au début, quelqu'un qui se sent coupable et pécheur et perdu, ben, il se dit, ben, je suis tout content si je ne vais pas en enfer. Mais c'est beaucoup, 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 infiniment beaucoup plus que ça le salut. C'est un jour régner avec le Seigneur Jésus-Christ, le second Adam. Vous savez que avec Adam et Ève, Dieu a été déçu, si on peut dire. Ils n'ont pas rempli le rôle pour lequel ils avaient été créés, et de même avec toute la race humaine. Mais Dieu a recommencé l'histoire de l'homme avec celui que la parole de Dieu appelle dans 1 Corinthiens 15, le second Adam, le deuxième homme. Avec lui, Dieu a recommencé l'histoire, et un jour, le Seigneur Jésus va régner sur ce monde qui va être renouvelé, changé, transformé, ce que la Bible appelle le renouvellement de toutes choses. Puis quand on est chrétien, on va y être associé à sa gloire. Alors Dieu nous bénit de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, parce qu'on voit là que les lieux célestes, c'est la sphère de nos bénédictions. C'est la sphère de nos bénédictions. Mais c'est aussi là qu'il y a un combat au chapitre 6. Hein, les puissances de méchanceté qui sont là dans les lieux célestes. Il y a des choses qu'on ne peut pas absolument définir, mais on sait que d'après la Bible, il y a le troisième ciel, là où Satan ne peut pas aller, mais on sait que Satan a dans une certaine manière accès à la présence de Dieu, et qu'il est contre nous, qu'il est notre accusateur, qu'il est celui qui dit du mal de nous, comme il a dit du mal de Job et ailleurs. Mais on sait que Dieu est plus puissant. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions du ciel. Il nous a prédestinés. Prédestinés, ça a référence non pas au passé, mais au futur. Ça veut dire que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils sont destinés d'avance à quoi ? Bien, à être ses enfants d'adoption. Il faut reconnaître qu'il y a des choses un peu difficiles. Ça ne veut pas seulement dire adopter, dans le sens ordinaire du mot, ou des gens qui adoptent un enfant, mais ça veut dire qu'on a tous les privilèges de ceux qui sont ses enfants. C'est ça que ça veut dire, ça. Adopter. Dieu nous a, parce qu'on est vraiment plus qu'adoptés, on est ses vrais enfants, parce qu'on est né dans la famille de Dieu. Hein, dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, à tous ceux qui sont nés de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le croyant, il est vraiment né dans la famille de Dieu. Mais il est adopté dans ce sens qu'il est héritier de toutes les bénédictions du ciel. Et la parole de Dieu nous les décrit un peu, évidemment, nous montrer que Dieu, il est riche dans tout ce qu'il fait. On a dit de Dieu, il est tellement riche qu'il s'appauvrit jamais en donnant. On connaît des gens riches qui étaient à l'aise, puis qui ont beaucoup donné, puis finalement, ils en restaient pauvres, ben, ils ont eu des revers de fortune, puis ils ont perdu une partie de ce qu'ils avaient. Mais Dieu, lui, il peut donner, mais sans jamais s'appauvrir. Sans jamais s'appauvrir. Alors, c'est ça qui est merveilleux. On a là la richesse de sa grâce. Au chapitre 2, au verset 7, il y a la richesse de sa miséricorde. Oui, chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, verset 4, on a la richesse, Dieu qui est riche en miséricorde. Je me suis posé la question, quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde? C'est assez délicat. Quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde? Bien, en y pensant, en étudiant un peu, je suis arrivé à cette conclusion. La grâce, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui pardonne quand il est en droit de punir. La grâce. On grâce, on veut gracier quelqu'un qui est prisonnier puis qui mérite d'être pendu, il est gracié. On accorde une grâce à quelqu'un qu'on serait normalement en droit de punir. Tandis que la miséricorde, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui remet la dette à celui qui n'est pas solvable, à celui qui ne peut pas payer. Celui qui ne peut pas payer, Dieu lui remet sa dette. Et nous, on était tous les deux, on était dignes d'être punis, et puis on n'était pas capable de payer. Mais le Seigneur Jésus a tout fait pour nous. Alors on voit la richesse de sa grâce, la richesse de sa miséricorde. Dieu est riche. Dieu est riche, puis il n'y a rien à vendre. C'est ce qu'on dit quand on prêche l'Évangile. Dieu n'a rien à vendre, il n'est pas commerçant. Mais il donne gratuitement, libéralement. Sa grâce, on a dit, c'est comme l'eau. C'est comme l'eau. L'eau coule, elle descend toujours, elle ne remonte jamais. On a dit la grâce, il n'y a rien qu'à se baisser, puis elle nous coule dessus. Ça veut dire qu'il faut s'humilier. La grâce de Dieu, elle descend. C'est comme l'eau. On n'a jamais vu de l'eau qui remontait. Elle descend toujours. Et la grâce de Dieu, c'est pareil. La grâce de Dieu, elle descend sur ceux qui veulent s'humilier pour la recevoir. Alors, il nous a bénis par toute espèce de sagesse, au verset 8 du premier chapitre. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein, c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure, les desseins de Dieu, qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, parce qu'on voit que Dieu, il y a des temps pour tout, il y avait un temps quand les temps étaient accomplis, le Seigneur Jésus est venu, il y a le temps pour qu'il revienne, qui nous est inconnu, il y a le temps où on va être avec lui, tout est réglé, Dieu, il sait tout d'avance, il n'y a pas même d'avance pour lui, il est éternel dans l'essence de sa personne. Alors, mais Dieu veut vraiment, a vraiment des projets, des plans merveilleux. Puis il y a une chose, c'est que quelqu'un pourrait bien avoir de bonnes intentions, mais être incapable de les mener à bien. Il y a certains hommes politiques, quand même plus ou moins sérieux, qui se proposent bien des choses, baisser les impôts, puis augmenter les subventions, mais quand ça vient le temps, ils ne sont pas capables. Tandis que Dieu, lui, il n'y a rien qui promet qu'il n'est pas capable de le mener à bien. Tout ce que Dieu promet, il est à même de l'exécuter. C'est beau, ça, de penser à ça. Que les promesses de Dieu, comme dit l'Écriture, elles sont tout. Oui et Amen dans la personne de son Fils. Oui et Amen. Ça veut dire elles seront accomplies grâce à ce que son Fils a fait. On touche du doigt un peu la grandeur de l'œuvre de la croix. Et on touche du doigt aussi la grandeur de notre salut, qui est, comme je l'ai dit, pas seulement le pardon, mais de voir que Dieu veut vraiment nous accorder un avenir glorieux. Tellement glorieux qu'on a de la peine à le décrire. On ne peut pas vraiment se représenter les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas compliqué qu'on ne puisse pas. Quand on pense que même sur notre planète, il y a tellement de choses différentes. que les gens qui les ont jamais vus, ils n'ont aucune idée de cela. À Québec, on a eu pendant plusieurs années un bon nombre d'Africains qui étaient dans l'Assemblée, des chrétiens africains. Puis, ils nous ont fait rire des fois, mais ils nous ont appris bien des choses. C'était pas des fous, qu'à l'université, c'était des gars qui étaient quand même assez instruits aussi. Puis, qui nous racontaient, par exemple, quand ils allaient pendant l'été, là, quand il n'y avait pas de cours, ils allaient dans leur pays. Puis, il y en avait qui leur demandaient là-bas, « Y avez-vous déjà vu de la terre au Canada? » J'entendais qu'il y avait beaucoup de neige. Alors, ils demandaient, « Avez-vous vu de la terre? » Puis eux, ils nous montraient aussi des diapositives avec des grands arbres, des arbres formidables, toutes sortes de choses qui nous dépassent quand on ne les a pas vues. T'sais? Alors, on voit bien que même sur notre petite planète, dans le monde qu'on peut connaître, il y a tellement de variétés de richesses. Dans certains pays, comme en Suisse, il y a des endroits où il neige pratiquement jamais, puis une heure d'automobile, il y a la neige toute l'année. En plein mois de juillet, on peut faire du ski toute l'année, les neiges éternelles. Ceux qui n'ont pas vu ça, à une heure de distance, ils me disent, c'est pas possible. C'est possible, je l'ai vu. Même qu'on n'aurait pas vu, c'est vrai pareil. C'est comme le ciel. Jamais été au ciel, jamais été en enfer. Mais j'y crois, la Bible le dit, c'est assez. Alors, ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter nos bénédictions par la foi. Par la foi. On doit croire ce que la parole de Dieu nous dit. S'y attacher. On en jouit par la foi. En lui, nous sommes devenus héritiers et ont été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. Dieu a décidé que ceux qui mettraient leur confiance en Jésus-Christ seraient l'objet de ses desseins bienveillants, l'objet de ses bonnes pensées. C'est bon pour nos esprits, nos âmes, nos cœurs de repenser à ces choses. Parce qu'on doit reconnaître que par nature, on est méfiant vis-à-vis de Dieu. Quand, c'est vrai des inconvertis. Hein, les inconvertis, on leur annonce l'Évangile, on leur dit tout ce que le Seigneur veut faire pour eux. Puis ils sont là, c'est une ganique. Ils ont peur. Le monde sont méfiants vis-à-vis de Dieu. Crédules pour croire n'importe quelle bêtise, puis incrédules, méfiants vis-à-vis de Dieu. Et comme chrétiens, on a toujours cette même nature. On est lent, comme les disciples d'Emmaüs. Le Seigneur Jésus a dit qu'ils étaient lents de cœur à croire ce que les prophètes ont dit. Et nous aussi, on est souvent lents à croire l'immensité de nos bénédictions, la portée extraordinaire de nos bénédictions, où Dieu nous voit déjà dans les lieux célestes, comme si on était déjà assis avec le Seigneur Jésus, dans la gloire du ciel. Si on peut faire une petite comparaison, je dirais, imaginez-vous cette terre, si elle n'avait pas été perturbée par le péché et par le déluge, parce que le déluge a perturbé même les conditions atmosphériques, le climat, des choses qui ont été dérangées à cause du déluge, sans doute. Bien, s'il n'y avait pas d'injustice, s'il n'y avait pas d'abus, s'il n'y avait pas de gaspillage, pas besoin de police parce qu'il n'y aurait pas de mal, pas besoin de prison. Vous savez que ça coûte 40 000 $ par année pour un prisonnier. Ça coûte cher des pensionnaires. Hein? Bien d'autres choses. Pas de guerre, pas des sommes astronomiques qui se dépensent pour l'armement nucléaire, pour des conférences internationales pour amener la paix. Pas de gaspillage dans toutes sortes de domaines. Imaginez-vous, ce serait merveilleux. Puis s'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas de maladie, pas d'hôpitaux. La terre rendrait son fruit avec une façon beaucoup plus abondante, mais il y aurait amplement pour tout le monde. Ce serait merveilleux. C'est inconcevable. On n'est pas capable dans nos esprits de comprendre ça. Alors, si on ne peut pas se représenter le monde qu'on voit, comment est-ce qu'il serait s'il était parfait? Comment est-ce qu'on veut se représenter le monde à venir avec les bénédictions et les richesses qui sont les nôtres? C'est au-delà de toute notre imagination. C'est au-delà de toutes les conceptions humaines. Mais la parole de Dieu nous en dit assez pour que nos cœurs s'y attachent, pour que nos cœurs soient sensibles et répondent par la consécration à Dieu. Quand on pense qu'il a tout payé et qu'il veut tout nous donner, et on devrait être complètement révolutionné, je dirais, de reconnaissance pour la grâce de Dieu dont nous sommes les objets, pour les merveilleuses bénédictions qui sont les nôtres. L'espérance, comme dit l'apôtre Paul, qui s'attache à son appel. Et dans la Bible, il faudrait souligner, c'est qu'il y a des fois des mots qui n'ont pas tout à fait le même sens que dans le vocabulaire ordinaire. On espère qu'on n'aura pas trop de neige pour le restant de l'hiver, mais on n'est pas sûr. C'est une espérance vague, c'est un espoir. Tandis que dans la Bible, le mot espérance, c'est une certitude qui est basée sur les promesses de Dieu, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ça, c'est quelque chose. L'espérance qui s'attache à son appel. Dieu nous promet certaines choses, mais c'est une certitude. L'espérance du chrétien. Elle est l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu va manifester sa puissance, manifester sa capacité de mener à bien ce qu'il nous promet. Alors on voit toutes nos bénédictions, toutes nos richesses dont Dieu nous parle. Et il ne faut pas oublier que tout ce que Dieu fait est parfait. Comme j'ai dit à quelques-uns aujourd'hui, il y a une différence entre l'Église locale et l'Église universelle. L'Église locale, c'est le sujet de la première épître aux Corinthiens et de la première épître à Timothée. Là, il y a des instructions pratiques pour l'Église locale. Tandis que dans l'épître aux Éphésiens, vous pouvez voir à la fin du premier chapitre, puis à la fin du deuxième, il parle aussi de l'édifice, il parle aussi de l'Église comme un corps. Ça, c'est l'Église universelle. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que l'homme fait est imparfait. Il y a un chrétien qui dit, moi, je suis à la recherche d'une église parfaite. Puis un de ses amis lui dit, écoute, il y en a peut-être une, mais vas-y pas, parce que le jour où tu seras là, elle sera plus parfaite. Le jour où tu seras rendu, parce qu'on est tous imparfaits. Et des fois, en se connaissant mieux, on apprend à s'apprécier, mais on apprend aussi à voir qu'on est imparfait, que tout ce qui est laissé à la responsabilité de l'homme est entaché de faiblesse. Et même les serviteurs de Dieu, que peut-être on pense que c'est des grands géants, des hommes de Dieu, oui, il y en a qui sont des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires, mais on peut être déçu aussi. Il faut s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. C'est le but de la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, il parle de l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église que Dieu construit. Non pas l'Église qui est à la responsabilité de l'homme, comme dans 1 Corinthiens 3, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte, que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. » Ça, c'est l'Église locale, laissée à la responsabilité de l'homme. Là, c'est l'Église universelle que Dieu construit. Elle s'élève comme un temple saint dans le Seigneur. On ne voit pas ça aujourd'hui. Mais Dieu la voit, lui. Dieu la voit, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu accomplit ses desseins malgré les erreurs de l'homme, malgré les empêchements, je dirais même, de l'homme. Donc, on peut être sûr que Dieu va mener à bien ce qu'il a entrepris. Et c'est justement une chose qui caractérise Dieu. Moi, je vous avoue, il y a bien des choses que j'ai commencées, mais bien des affaires que j'ai pas finies non plus. Ça, j'espère vivre encore un petit peu pour en finir, parce que... Mais c'est le propre de l'homme, de commencer. Des idées, en veux-tu? Ben, voilà des idées, on va t'en fournir des idées. C'est facile d'avoir des idées, puis de commencer quelque chose. Mais c'est une autre paire de manches quand il faut terminer. Mais dans la parole de Dieu, j'apprends à connaître un Dieu qui termine toujours ce qu'il commence. Ça, c'est une des caractéristiques de Dieu. Dieu mène à bien ce qu'il a commencé. Alors, on aime à lire sa parole pour apprendre à mieux le connaître, parce qu'on est réjoui quand on voit ça. Alors on peut dire, l'œuvre que Dieu a commencée en nous, pour nous préparer d'une façon pratique pour ce grand jour où on va être avec lui, il va la continuer son œuvre aussi en nous. Et c'est ce qui nous fait confiance. C'est la même chose pour la sécurité éternelle du croyant. Je suis pas sûr d'être sauvé parce que je sais que moi je vais rester fidèle. C'est pas ça. Je sais que celui qui m'a sauvé va me garder jusqu'au bout de la course. Jusqu'au bout de la course. Pourquoi? Parce que je suis entre de bonnes mains. J'ai lu une fois le docteur, non, j'ai pas lu, j'ai une cassette chez nous du docteur Harry Ironside. Ça, c'est un grand prédicateur aux États-Unis. Il est mort aujourd'hui. Puis il y avait quelqu'un qui lui avait dit, allez au ciel, c'est un peu comme faire un tour en bicycle, en bicyclette, on risque de tomber en route, puis jamais y arriver. Il dit, j'avais trouvé que c'était pas mal une bonne illustration, ça. Jusqu'au jour où j'ai compris, on va pas au ciel en bicyclette, on y va sur les épaules du bon berger. Alors, c'est ça, voyez-vous, on va au ciel sur les épaules du bon berger. Celui qui nous a entrepris, il est capable de nous mener, de nous mener là où il veut nous faire arriver. Alors, j'espère que cette courte méditation vous aura encouragé dans une petite revue de vos bénédictions, vous aura fait vous réjouir même du jour où on sera avec le Seigneur, puis vous aura stimulé à marcher pour lui d'une manière digne de l'appel, en attendant qu'on soit rendu. Prions. Notre Dieu, nous voulons encore terminer cette réunion avec des cœurs reconnaissants, te remerciant pour nous avoir permis d'ouvrir le Saint-Livre, de penser à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Que sa personne qui a été devant nous ce matin soit encore devant nous à la fin de cette soirée. Car tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est grâce à ton Fils bien-aimé, celui qui a payé le plein prix, non seulement pour nous délivrer de l'enfer, mais pour faire de nous des citoyens du ciel, pour un jour que nous puissions régner avec lui, sur un monde transformé. Notre Dieu, ça nous dépasse, ça dépasse notre faible intelligence, et même ça dépasse la mesure de nos cœurs. Mais nous savons que ta parole ne veut pas nous promettre quelque chose qui soit irréel, mais nous savons que ta parole est la vérité, et nous voulons t'en remercier. Fais du bien à chacun de nous, garde-nous pendant la semaine qui vient, protège-nous du mal et d'accidents sur le chemin du retour, et bénis ta parole autour de nous. Aide-nous à témoigner de toi, et bénis aussi nos familles représentées ici. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, en te rendant grâce, au nom du Seigneur Jésus. Amen.